D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danville. À l'occasion du 30e anniversaire de la chute de Saigon, je me trouve à Chantilly, dans les collections de photographies du duc d'Aumale, qui contiennent les premiers exemples au monde de photographies de reportages de guerre. Avant l'ère de la photographie, le récit de guerre, c'était le domaine de la littérature. Des épopées, des poèmes, des tragédies. L'Iliade, les premières tragédies grecques, la guerre était héroïsée. Il fallait bien rembourser les morts de leurs souffrances en faisant croire qu'ils avaient été au service des dieux plutôt que de l'incompétence des états-majors. Et puis est arrivée l'imprimerie, plus incontrôlable que les spectacles, et Grimmelshausen a écrit le premier roman de la guerre absurde, celle de 30 ans et de ses horreurs, dans les fameuses aventures de Simplicissimus en 1668. Au XIXe siècle, la littérature est devenue prodigieuse d'authenticité en matière de récits ou de fiction de guerre. L'une des plus meurtrières et qui a traumatisé pour longtemps les États-Unis a été la guerre de sécession, dite là-bas guerre civile, qui a duré de 1861 à 1865. Le plus grand écrivain peut-être de ce moment de l'histoire, c'est Ambrose Bierce qui l'a faite, cette guerre, et en a rapporté des nouvelles qui sont parmi les meilleures nouvelles de guerre qui soient, et qui dit nouvelles et fiction dit le moyen analogique le plus sûr de débusquer ce qu'on veut nous cacher. 10 ans avant cette guerre, une autre, celle de Crimée, a donné lieu au remarquable récit de Sébastopol par un des romanciers qui a le mieux réussi les descriptions de bataille, Léon Tolstoï. Et lui aussi l'a fait cette guerre, et voici ce qu'il en écrivait après 6 mois de siège. Des milliers d'êtres ont été froissés dans leur amour-propre, des milliers ont été satisfaits dans leur orgueil, des milliers se sont reposés dans les embrassements de la mort. Combien de cercueils de couleur rose, combien de linceuls de toile ? Et toujours le même fracas retentit. Les Français ne cessent de contempler avec un involontaire tremblement et une secrète horreur, par les soirées claires de leur camp, la terre jaunâtre et bouleversée, des bastions de la forteresse, les noires silhouettes de nos marins qui s'y agitent. Et le problème que ne peuvent trancher les diplomates, la poudre et le sang n'en ont pas encore donné la solution. La poudre et le sang, c'est ce que nous montrent depuis longtemps les écrivains, mais aussi les photographes et les cinéastes. Du moins jusqu'à la guerre du Vietnam, dont les reportages ont tellement bouleversé la population américaine que, à la guerre suivante, la guerre du Golfe, le gouvernement américain a inventé les reportages de guerre qui ne montraient rien, complètement contrôlés, sans mort visible, et que même maintenant, nous avons l'impression d'avoir affaire à des guerres invisibles. Au musée Condé à Chantilly, les collections du duc d'Aumale comportent des séries de photographies extrêmement rares et passionnantes qui constituent les premières recensions de la guerre par ce moyen. Quel est le secret professionnel des premiers reportages de guerre photographiques ? Me reçoit pour en parler, au château de Chantilly où je me trouve en ce moment, Nicole Garnier, conservateur du patrimoine chargé du musée Condé. Nicole Garnier, nous sommes venus dans Secret Professionnel il y a quelque temps visiter la collection de photos du duc d'Aumale de manière générale. Redites-moi où nous nous trouvons en ce moment.
Nous sommes dans les combles du logis, donc dans la partie du château reconstruite au XIXe siècle par l'architecte Daumet pour le duc d'Aumale pour installer ses collections de tableaux. Et donc dans les combles, au-dessus des salles ouvertes au public, se trouve le cabinet des estampes, une sorte de grenier avec un papier peint très simple et des peintures un peu défraîchies, certes. C'est là que le duc d'Aumale stockait ses estampes sans grande valeur et sa collection de photographies anciennes.
Alors, vous nous aviez expliqué que vous avez découvert, quand vous avez été nommé ici en 92, je crois, ces photos de manière presque inattendue, enfin fortuite. Est-ce que vous avez été frappé de manière plus particulière par les photos de guerre, ou d'ailleurs, est-ce qu'elles étaient rangées thématiquement ? Comment est-ce qu'elles étaient rangées ?
Alors, toutes les photographies de Roger Fenton, toutes les photographies du siège de Sébastopol, où il était groupé à part dans des portefeuilles en craft très simples, avec les sceaux de cire qui portent la mention de la donation du duc d'Aumale à l'Institut de France. Puisque...
Et est-ce que vous avez été, quand vous avez ouvert ces enveloppes en craft, c'est ça, en papier, est-ce que vous avez été particulièrement stupéfaite, et est-ce que vous avez passé, je sais pas, est-ce que vous êtes accroupi là sur ce parquet Versailles sur lequel nous marchons, et est-ce que vous avez passé des heures et des heures à regarder émerveiller ces photos, ou est-ce que vous vous êtes dit, j'ai du boulot, il faut que je recense, que je récolte les photos sérieusement?
Alors j'ai été très impressionnée parce que les premières photos que j'ai découvertes, ce sont celles de Le Grès, les fameuses marines de Le Grès. voilà, dont le musée d'Orsay venait d'acheter d'autres épreuves pour des sommes faramineuses à l'époque. Et oui, j'y ai passé plus que des heures, j'y ai passé des mois, puisque j'en ai fait l'inventaire, et qu'il y a près de 1800 photographies anciennes dans la collection du duc d'Aumale. Donc ça a été une découverte pour les spécialistes de l'histoire de la photographie, puisque les épreuves donc, proviennent d'un des plus grands collectionneurs français du XIXe siècle, qu'elles sont restées groupées sans jamais avoir été montrées depuis un siècle.
Alors, pour en venir à notre sujet du jour, je voudrais que vous nous montriez donc les photos de guerre et de reportages de guerre que le duc d'Aumale a achetées. Lui-même était, n'est-ce pas, un homme de guerre ?
Tout à fait. Le duc d'Aumale a commencé sa carrière, il avait à peine 20 ans, lorsqu'il rejoint son frère aîné en Algérie. Il va donc faire ses premières armes aux côtés du duc d'Orléans, le prince royal, le fils aîné de Louis-Philippe en Algérie. Il s'illustrera notamment avec la prise de la Smala en 1843, il deviendra gouverneur général de l'Algérie, enfin, c'est tout à fait un soldat. Et le drame du duc d'Aumale, c'est que la révolution de 48 va le priver de cette carrière militaire et politique. Et donc il va se reconvertir en historien d'art, en amateur d'art, en collectionneur. Et donc forcément, il va avoir envie d'acquérir les épreuves photographiques qui montrent les combats. Et le reportage de guerre est une apparition des années 1850, en même temps que la photographie finalement.
Qu'est-ce que c'était au fond la photo en 1839-40 et à ses débuts et jusqu'au début de la collection du duc d'Aumale? Est-ce que c'était, on prenait des photos dans des musées pour dire tiens, on va archiver une photo, la Joconde en prenant la photo? Est-ce que c'était des portraits? Est-ce que c'était des paysages? Est-ce que c'était de l'art? Est-ce qu'il y avait déjà du reportage?
C'était exactement tout ça, comme aujourd'hui. C'est avant tout une découverte scientifique qui a été faite quasi simultanément en France et en Angleterre, Fox Talbot, Niepce chez nous. Et puis ensuite, les utilisateurs de la photographie vont l'utiliser exactement comme nous le faisons aujourd'hui. Ça va être les portraits de famille du duc d'Aumale, sauf que dans sa collection, on a évidemment les portraits de toutes les têtes couronnées d'Europe. Quand on est un Orléans, évidemment, on est apparenté à toutes ces familles. Sauf que le duc d'Aumale, qui est le plus grand collectionneur français du 19e, va se servir de la photographie comme outil documentaire pour étudier ses collections. Donc on va avoir des reproductions, effectivement, des tableaux qu'il ne peut pas forcément aller voir, par exemple en Russie. Quand il achète le dessin attribué à Léonard de Vinci, il va demander la photo, comme on le ferait aujourd'hui, au musée de l'Ermitage, du tableau qui est peut-être en rapport avec son dessin, c'est tout à fait naturel. Mais comme il est un soldat, il va évidemment s'intéresser aux premiers reportages de guerre.
Et donc les premières photos de guerre que vous ayez, je crois, sont donc relatives à la guerre de Sécession, n'est-ce pas ?
Alors oui, effectivement, en 1863, on a deux épreuves pour une raison familiale bien précise, c'est que le duc d'Aumale a deux neveux. Donc le comte de Paris et le duc de Chartres, qui sont les fils aînés de son frère, le duc d'Orléans, qui sont donc l'héritier du trône et son jeune frère, ils ne peuvent pas faire leurs armes militaires en France, puisqu'ils sont exilés comme lui en Angleterre depuis la Révolution de 48. Donc le prince de Joinville, le frère du duc d'Aumale, va escorter ses neveux aux États-Unis et ils vont gagner leur premier galon et faire leur baptême du feu dans les rangs de l'armée du Potomac, donc de l'armée des États-Unis.
De quel côté ?
Du côté anti-esclavagiste, bien sûr.
Alors, et donc on a affaire à deux princes français s'engageant dans une armée américaine. Est-ce que c'était la première fois ?
Ça fait évidemment, ça évoque évidemment Lafayette et puis l'avenue des Français aux États-Unis.
Oui, mais Lafayette n'était pas dans une armée américaine.
Non, absolument. Mais c'est à nouveau un événement de Français venant combattre pour une belle cause de l'autre côté de l'Atlantique.
Et donc montrez-nous ces photos de la guerre de Sécession. Nicole Garnier est en train d'ouvrir des grands portefeuilles en carton gris et on sort des cartons.
Deux photographies.
De très grands formats.
Sont, ça fait à peu près 30 cm de hauteur par 50 de long. Donc, ce sont les formats des chambres photographiques avec lesquelles ces clichés ont été pris. Comme à l'époque, on ne maîtrise pas bien l'instantané, ce sont des photos posées et ce sont des photos donc, qui représentent les principaux chefs de cette armée du Potomac. Alors, on trouve dans celle-ci le portrait donc des deux neveux du duc d'Aumale.
Alors
donc,
pardon de vous interrompre, c'est des photos des messieurs en uniforme, dûment casquettés et moustachus, à peu près tous comme c'était la mode à l'époque et presque tous barbus. Mm-hmm. Alors où sont les deux neveux du duc d'Aumale ?
Alors ils sont ici et là, place 9 et place 11, et on a d'ailleurs une petite légende écrite à la main, à la plume sur le côté, qui dit l'état-major de l'armée du Potomac. Et donc dans cet état-major, on va trouver sous le numéro 9 le duc de Chartres, qui est ici, et sous le numéro 11, donc le comte de Paris.
Ce sont des officiers de quelle nationalité ?
Américains.
Tous américains.
Tous américains. Donc ce sont les deux seuls Français au sein de cet état-major.
Et l'autre photo au-dessus, qui est du même grand format, et là ils ont l'air plus détendus, ils sont pas...
Les deux princes français ne sont pas dans les rangs de l'armée, c'est la particularité, si je me souviens bien.
Alors ils sont tous debout, ils sont 3, 6, 9, 11... Et ils sont 11 à poser. C'était des temps de pause assez longs.
C'était des temps de pause assez longs, oui. Plusieurs secondes, hein, entre 3 à 20 secondes. Donc il ne faut pas, effectivement, pas bouger.
Et là, les deux princes n'y sont pas.
Non, les deux princes n'y sont pas.
Et on connaît les auteurs des photographies?
Non, les photos sont anonymes. Alors, il y a eu des attributions de fait, Gardner, Brady, on connaît les noms des photographes qui sont intervenus durant la guerre de sécession, mais là, on n'a pas tous les éléments, c'est certain, et ça restera probablement inconnu, sauf à découvrir une épreuve qui porte une marque, un tampon, et qu'on puisse identifier.
Et les deux princes ont fait toute la guerre?
Non, ils sont restés relativement peu de temps, ils sont restés à peine une année.
Et on sait s'ils sont allés au combat, s'ils ont...
Oui, ils sont allés au combat, absolument. Et Joinville, d'ailleurs, écrit à son frère et donne des nouvelles des neveux. Le duc d'Aumale est le plus jeune, un des plus jeunes de la famille, et surtout, il est l'héritier des princes de Condé, qui lui a légué Chantilly, le palais Bourbon, etc. Et donc, après la Révolution de 48, il n'a plus le droit d'avoir de biens en France, il va donc vendre toutes ses propriétés, et il va avoir de l'argent frais, c'est avec cet argent... venant des Condés, qu'il va donc faire vivre toute la famille d'Orléans. C'est lui le plus riche de la famille. Il va donc s'acheter une superbe propriété sur les bords de la Tamise, à Twickenham. Il va d'ailleurs louer ou acheter des propriétés aussi pour ses frères, pour ses proches, pour ses neveux notamment, qui vont s'installer tout autour de lui à Twickenham, tous donc à Richmond. Et ils vont vivre là, et c'est là que le duc d'Aumale collectionnera donc ce qui est aujourd'hui cette extraordinaire collection qu'il a léguée à l'Institut de France en 1884, pour former le musée Condé de Chantilly.
La République n'était pas si mauvaise fille parce qu'elle les a exilés, mais elle leur a donné le droit. Ils n'ont pas été expropriés ni saisis.
Si, ils ont été expropriés. Il a dû vendre. Alors, il a dû vendre.
Alors, il a pu garder l'argent.
Il a gardé l'argent, bien sûr. Il a dû vendre. Le palais Bourbon, il l'avait déjà vendu à l'État pour en faire le siège de notre monarchie parlementaire. C'était l'hôtel particulier à Paris des Bourbons-Condé. Quant à Chantilly, il a fait une vente fictive, puisqu'en 71, à la chute du Second Empire, il est rentré à Chantilly sans coup férir, sans avoir rien racheté. Donc il avait vendu à ses banquiers anglais, Coates & Marjoring Banks, comme c'était pratique.
Comment ça, il a vendu à
ses
banquiers?
Il a fait une vente fictive à ses propres banquiers anglais.
Nous allons maintenant entendre Suicide is Painless, le suicide est indolore, la chanson du film satirique sur la guerre du Vietnam par Robert Altman, dans la version de J.J. Johansson.
Alors, Nicole Garnier nous reçoit dans les salles secrètes de Chantilly pour nous montrer la partie plus spécifique de la remarquable collection du duc d'Aumale de photographies, et donc pour voir les premiers grands reportages de guerre de l'histoire de l'Europe, je crois qu'on peut dire ça.
On peut dire ça.
Et donc, vous nous avez montré, Nicole Garnier, dans la première partie de l'émission, les photos de la guerre de sécession. Et la partie la plus importante de votre fond photographique comme reportage de guerre est, je crois, celle sur la guerre de Crimée, n'est-ce pas?
Absolument. Le siège de Sébastopol, précisément.
Alors, je vais juste faire un peu le cuistre et réexpliquer pour ceux qui nous écoutent, et même pour moi-même, il a fallu que je révise, que la guerre de Crimée était donc une alliance franco-anglaise contre la Russie qui voulait déstabiliser et démembrer l'Empire turc. Elle a duré, sauf erreur, de 1854 à 56, et nous le savons à Paris, car ça fait partie, dans la topographie de la ville, des lieux que nous devons à ces victoires, le pont de l'Alma, le boulevard Sébastopol, l'avenue Bosquet, puisque c'était un des généraux qui combattait là-bas, et qui étaient des victoires du Second Empire, qui n'a pas fini aussi bien qu'il avait commencé. Alors, il faut que vous m'expliquiez comment ces photos sont arrivées ici. Alors, et de qui elles sont? Elles sont un photographe unique?
Alors, c'est un photographe unique, c'est Roger Fenton. Roger Fenton qui est un peintre au départ, et ce peintre, comme beaucoup à l'époque, va s'emparer de la technique photographique naissante pour en faire un instrument de création artistique. Donc, il va... d'ailleurs apprendre la peinture en France, hein, chez Delaroche, celui qui a dit à partir d'aujourd'hui, faisant allusion à la naissance de la photographie, la peinture est morte, puisque la photographie est apparue. Et donc Fenton va utiliser cette technique. Alors, il est un proche...
Il a eu des fonctions importantes comme photographe au British Museum, non ?
Oui, c'était un photographe officiel, comme la plupart de ces photographes qui, pour vivre, avaient des fonctions tout à fait documentaires, utilitaires. Mais il est aussi un proche de la reine Victoria et du prince Albert, et donc c'est la reine Victoria qui va l'envoyer au front, en Crimée, pour montrer, c'est une mission bien précise, c'est une mission de propagande, que tout se passe bien sur le front. Alors qu'on sait que le choléra décime les troupes anglaises, et les autres naturellement, alors qu'on sait que les chevaux enfoncent jusqu'au ventre, que c'est l'horreur, que les conditions de vie sont épouvantables, il faut au contraire montrer des photos très clean.
Hein, oui, c'est vraiment, voilà. Comme souvent au début, on était parti la fleur au fusil, on pensait qu'on pilerait les Russes en 3 mois, et ça a été très très long, le siège de Sébastopol a été sanglant.
Pratiquement une année. Donc vous connaissez l'anecdote, sur Place de l'Opéra, quelqu'un n'arrive pas à se faire servir un verre à un bistrot. Garçon, c'est ici comme à Sébastopol, on ne peut rien prendre, 3 mois de prison pour avoir dit ça.
Donc ça voulait dire que ces photos étaient destinées, sur ordre du gouvernement anglais ou de la reine Victoria, à être diffusées dans la presse, est-ce qu'on imprimait déjà dans les journaux des photos ?
Alors elles étaient surtout vendues par livraison. Le but, c'était de les diffuser de façon hebdomadaire. Chaque semaine, les libraires anglais diffusaient ces épreuves, qui portent d'ailleurs toutes les mentions. On peut regarder sur une des photos, on a donc les copyrights, en quelque sorte, d'impression de ces épreuves.
Ça faisait des tirages, oui. On mettait ça sous enveloppe et les libraires vendaient ça.
On pouvait les encadrer. Donc, alors... Là, c'est une image tout à fait exceptionnelle. C'est un conseil de guerre. C'est le conseil de guerre auquel Fenton a eu la chance d'assister. C'est la prise du mamelon vert qui va se décider ce matin-là. Il est 5 heures du matin et les chefs principaux sont réunis. Donc on a le chef anglais, Lord Raglan, on a le responsable des armées turques et puis on a également donc le français qui est Pélissier.
Qui est le général Pélissier.
Voilà.
Et alors c'est une photo d'assez petit format qui représente ces trois personnages assis à une table, n'est-ce pas, qui porte assez curieusement pour un conseil de guerre une espèce de plaid à carreaux ou quelque chose comme ça, non ? Sur la table.
Alors la difficulté, c'est que là on est en juin 55, il fait extrêmement chaud à Sébastopol, il y a des problèmes techniques, et donc on peut faire les photos, Fenton ne peut faire ses prises de vue que le matin de bonne heure, parce qu'après la chaleur est telle que le collodion humide, le procédé photographique avec lequel il travaille, va empêcher les prises de vue. Donc on suppose qu'ils le font très tôt le matin, très vite à la sauvette, donc on a dû sortir une table de l'intérieur de la chambre, il y a aussi des problèmes d'exposition à la lumière, il n'y a pas d'éclairage artificiel disponible, donc on fait ça aux premières lueurs du matin, très rapidement, et puis très vite, Fenton doit aller développer ses clichés. Donc il le fait dans son camion photographique, parce que sinon le collodion humide va sécher et que le développement sera perdu. Donc il y a vraiment des contraintes techniques extrêmement fortes.
Alors vous disiez que là... Pardonnez-moi, justement les contraintes techniques c'est intéressant parce que photographe de guerre de nos jours c'est compliqué parce qu'il y a la guerre, mais enfin on a un appareil photo de petit format, j'imagine que ces gens-là avaient des malles, des caisses, c'était très compliqué.
Alors il avait 36 caisses et il avait un camion, une espèce de charrette en bois qu'il a fait faire en Angleterre, qu'il a emmené avec lui, il a acheté ses chevaux sur l'île de Malte avant d'arriver en Crimée, donc 3 chevaux qui tiraient avec cette charrette, ce qu'il appelle le photographic van dans sa correspondance, et ce camion photographique sera facilement pris pour cible par les Russes. Donc il va écrire en grosses lettres dessus, photographic van, de façon à échapper au tir ennemi, ce qui ne sera pas du tout le cas. Et donc, dès qu'il fait ses prises de vue, il va très vite se réfugier à l'intérieur pour développer. Et alors, il a de gros problèmes, parce que comme il fait très chaud à Sébastopol, il est là-bas entre mars et juin, donc c'est la période du printemps et du début de l'été, 1855. Et donc, le collodion humide sèche très vite, et quand il développe dans le noir de son camion photographique, il y a les mouches qui vont se coller sur le collodion. Donc, il a plein de problèmes techniques qu'il écrit donc, dans ses lettres à son éditeur, à son épouse, qu'on a traduit de l'anglais, et qui commente donc ses épreuves de façon très, très amusante et très vivante. C'est une vie très dure d'être photographe au camp de Sébastopol. Au bout de 3 mois et demi, d'ailleurs, Fenton reviendra complètement dépressif. Son beau-frère combat dans les troupes anglaises. Il aura un bras emporté, justement, lors de cet échange militaire. Et après, Fenton raconte comment il a passé la soirée avec différents officiers d'état-major, ce qui lui permet d'ailleurs, le lendemain matin, de faire cette photo historique de la décision d'attaquer. Et donc, le lendemain soir, son frère est blessé. L'un des commandants avec qui il dînait la veille meurt dans la soirée. Et 3 autres sont disparus. Enfin, c'est l'épouvante. C'est vraiment l'épouvante. Et au bout de 3 mois et demi, donc Fenton va rentrer en Angleterre avec ses photos sous le bras. Donc, 360 épreuves qu'il ramène, alors qu'il avait emporté donc 700 clichés verts. Alors, ils sont d'assez petites dimensions parce qu'il faut faire vite. On n'est pas dans des photos posées très aisément. Donc, il espère pouvoir aller sur le terrain. Et vous voyez... Les clichés sont plutôt plus petits que ce qu'on a vu précédemment. Donc des clichés qui font environ 10 par 15. Il a 3 formats différents. Alors, il va utiliser quelquefois des formats un petit peu plus grands pour les différents portraits.
Ça, qui est-ce ?
Ben, c'est Pélissier, c'est toujours Pélissier. Donc voilà, c'est le général français qui commande les forces armées françaises. Et là aussi, ça fait partie de ces photos qu'il va réaliser très tôt le matin dans le camp, avant que la chaleur ne soit telle que le collodion prenne, avant qu'on puisse réaliser les clichés. On a aussi des images très positives et très calmes de ces troupes. Là, ce sont les zouaves. Donc ça, ce sont les troupes que le duc d'Aumale, notre collectionneur, notre donateur ici à Chantilly, avait commandées en Algérie dans les années 1840 à 48. Et donc ici, on les trouve donc combattants à Sébastopol.
Et alors ça, ces zouaves, ils portent un pantalon bouffant, une ceinture en tissu et un petit caraco. Les zouaves étaient, c'est évidemment des photos en noir et blanc, les zouaves étaient en rouge, non ?
Oui, en rouge et en blanc, oui. Ceinture blanche et caraco rouge et bleu.
Et ça, c'est des troupes françaises.
C'est pratiquement, oui, tout à fait. Ce sont pratiquement les costumes qu'on retrouvera pendant la guerre de 14-18. Hein.
Ouais.
Alors là, c'est typiquement une photo posée. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc là, il y a 5 personnages. C'est le général Bosquet avec tout son staff. Donc le général Bosquet est au centre avec une grosse légion d'honneur, bizarrement d'ailleurs posée à gauche. Donc ça, je pense que c'est tiré à l'envers.
Ah, oui.
Posée à droite plutôt, alors qu'elle devrait être sur son côté gauche. Et donc il montre du doigt d'un air vengeur sûrement la ligne ennemie, alors que tout son état-major autour de lui regarde dans une pose martiale. L'un d'entre eux a même son sabre qui est tendu jusqu'à terre.
Mais c'est une photo probablement rapidement prise, non ? Car le personnage, oui. Ils sont cinq, le personnage à gauche est un peu flou.
Oui, et même lui sur l'épaulette... Bosquet a un léger flou aussi dans son mouvement. On a également quelques vues de bataille et surtout de la vallée d'Inkermann, paysage en panoramique.
Qui sont les lieux mêmes de la bataille.
Oui, tout à fait.
Ou de l'autre côté était Tolstoï que je citais tout à l'heure et qui a fait lui-même d'ailleurs une brillante guerre. Qu'est-ce que c'est que ces gens un peu rustres là dont vous nous sortez les photos, Nicole
Alors,
Garnier ?
Ces gens un peu rustres, ce sont les chefs croates. Donc ce sont des ouvriers qui sont au service des troupes alliées et qui vont creuser les tranchées, les terrassements, construire les cabanes, planter les tentes. Donc ce sont des travailleurs qui
Quand
sont
vous
au service.
Les troupes alliées, les troupes franco-anglaises.
Donc franco-anglaises, piémontaises.
Piémontaises
et turques. Alors voilà la fameuse vallée d'Inkermann.
Alors c'est où exactement d'ailleurs cette vallée d'Inkermann ?
C'est pas très loin de Sébastopol. Et donc ce que Fenton a voulu réaliser avec, vous le voyez, des plaques assez grandes.
Un peu plus grandes hein, que
oui,
celles que nous...
Oui, elles sont un peu plus grandes.
Quel format à peu près ?
Oh, ça fait 25 de haut par 30 de long. Et il y en a 3. Donc l'idée c'était de faire une photographie qui devait réaliser près d'un mètre de long hein, et qui nous donne une idée de la vallée d'Inkermann. Donc dans sa continuité.
Elles devaient être montées les unes à côté des autres pour donner un panorama.
Tout à fait. Donc, c'est les premiers panoramas qu'on réalise en 3 planches, en 3 prises de vue différentes et qu'on va ensuite remettre au tirage à la suite. Voilà.
Alors là, on va vous ouvrir un portefeuille qui contient plutôt des vues...
Des vues du camp en général. Donc on est loin des photos posées. Là, c'est des vues assez lointaines avec toutes les tentes de l'armée alliée.
Alors ils étaient sous des tentes, c'était pas du dur.
Il y avait aussi quelques cabanes. On sait que Fenton a disposé à Balaclava, notamment, donc à l'arrière des lignes. Mais plus près du front, c'était ce type de tente. Et là, on voit donc plusieurs...
On voit Général Bosquet, quarters looking towards Mackenzie Farm.
Voilà.
Les quartiers du
général
Bosquet en direction de la ferme Mackenzie.
Ouais.
Et donc, c'est du côté de la partie française. Ouais. Et ce sont décrivez-nous les tentes.
Oh, bah, c'est des tentes
un peu yourtes,
oui, tout à fait, dans un paysage complètement lunaire et désolé. Hein. Donc on sait que l'hiver, c'était à la fois glacial et boueux, et l'été, complètement caniculaire et insupportable et poussiéreux. On en a d'autres. Alors ça, c'est une des plus belles photos qu'on ait du camp de la cavalerie, regardant vers Kadikoy.
Incroyable.
Oui.
Donc ça, c'est une grande photo, n'est-ce pas ?
Oui, ça c'est...
Un peu pâlie, est-ce que ça veut dire qu'elle a
Non, je pense pas qu'elle a pâli, je pense que c'est un problème technique de réalisation, là.
Ah.
Justement, comme c'est une vue lointaine, je pense qu'il y a eu quelques difficultés pour... elle est un peu surexposée, disons-le. Techniquement, elle n'est pas très, très réussie. Mais elle est intéressante parce qu'elle nous livre tout le détail du camp. Là, on voit quelques maisons en dur. Hein.
Mm-hmm.
C'est ces cabanes en bois donc, qui étaient construites par les ouvriers croates au service de l'armée. Et puis, donc, les tentes coniques.
Oui,
coniques, tout à fait.
Et des
avec
animaux.
Des chevaux. Alors, on voit que le temps de pause est assez court, parce que finalement, on a pu instantanéiser l'un des chevaux, mais il y en a un qui a tourné la tête, et voilà, ça fait une grosse tache.
Mais oui, ça donne des idées de guerre lente, non?
Oui.
C'est-à-dire que tout ça, il y a des chevaux, des bâtiments, c'est pas, il n'y a pas d'avion, quoi.
Non. Mais c'était aussi un siège lent, hein, puisqu'il
oui.
a duré près d'une année.
Nicole Garnier, est-ce qu'il y a des photos du bordel en campagne?
Non, j'ai pas ça.
Ah non, bon.
On va rester correct, mais en revanche, j'ai cette photo qui est amusante, qui montre les lignes de balaclava. Donc les lignes de balaclava, là, on a une bonne idée de la vallée d'Inkerman, avec au premier plan, justement, quelques personnages. Et puis, il y a ici, donc, des personnages qui ont bougé, hein, qui créent un flou. Un très beau panorama, donc, de la vallée, avec toutes ces petites tentes, ici, qui sont sur un flanc de coteau.
Alors, pour finir, Nicole Garnier, il faut préciser que le duc d'Aumale, quand il a légué sa collection, a demandé que la présentation soit telle qu'il
respecté,
l'avait voulu, ce
oui.
qui doit... probablement être gênant, vous allez me le dire, parce que maintenant la muséographie a changé, la façon de présenter les collections a changé, et d'autre part, il a interdit les prêts pour des raisons probablement de sécurité ou je ne sais quoi. Mais est-ce que ça n'est pas... Est-ce que d'abord vous ne faites pas, vous, l'objet de tas de demandes de prêts malgré cela du monde entier?
Bien sûr.
Comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas casser le testament du duc d'Aumale pour pouvoir montrer différemment les collections et pouvoir prêter, ce qui vous rendrait probablement service, car on sait que les prêts entraînent aussi... Non? Dites-moi.
Alors, il est vrai que la gêne principale de ne pas pouvoir prêter les collections, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire de l'art se fait dans les expositions internationales. Ça, c'est une vraie gêne. Ceci dit, on a beaucoup d'artistes importants et représentés en grand nombre. Et donc, notre choix, ça a été, pendant de longues années, c'est encore le cas, de réaliser des expositions monographiques autour des artistes les plus représentés. Nicolas Poussin, par exemple, qui va faire prochainement l'objet d'une exposition Jeu de Paume. Raphaël... ces artistes qui sont représentés avec plusieurs dizaines d'œuvres parfois dans nos collections. Pour Poussin, on a 7 tableaux, 33 dessins originaux, donc on a matière à faire des dossiers assez nourris et à drainer un public ici à Chantilly. Donc ça se suffit à toi tout seul. L'avantage de Chantilly aussi, de ne pas modifier la présentation, ça va être de pouvoir présenter un musée tel qu'il était au XIXe siècle. Et ça, c'est rarissime aujourd'hui. La plupart de nos musées, vous le disiez justement, ont vu évoluer leur muséographie. On va aujourd'hui de plus en plus vers un panneau, une œuvre. Aujourd'hui, chez nous, c'est pas du tout ça. On a conservé l'accrochage du duc d'Aumale tel qu'il était au XIXe siècle. Donc, c'est tout à fait inouï de pouvoir ça, de voir ça aujourd'hui. Avec donc des murs rouges, des murs sombres, comme le salon du XIXe siècle. On exposait à contemporain de l'époque. Avec de l'éclairage génital, qui était réputé être le meilleur. Donc, l'éclairage naturel qui arrive par le plafond. Donc, ce sont les conditions vraiment des musées tels qu'ils étaient au XIXe, qui soient privés. Et des œuvres courant les murs à touche-touche, en fonction des cadres et sans trop de logique artistique et géographique. Mais ce que le duc d'Aumale a souhaité, c'est que son accrochage reste pérenne, parce que c'est aussi le reflet de sa personnalité. Le duc d'Aumale a eu le malheur de perdre tous ses enfants, il a eu 7 fils, il en a perdu 5 en très bas âge ou à la naissance, 2 sont morts à l'âge de 18 et de 21 ans, c'est une vie très triste que celle de notre donateur. Et donc l'accrochage de Chantilly reflète l'histoire de sa famille. Par exemple, dans la galerie de peinture, qui est la salle principale, on a d'un côté la peinture italienne des 16e-17e, qui est la collection qui lui vient de sa mère, Marie-Amélie, ou de sa femme, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Et de l'autre côté, on a la collection de peinture française, qui lui vient de son père, donc le roi Louis-Philippe, la collection du Palais Royal, qui était la première collection au XVIIIe siècle, en France, après celle du roi. Donc voilà, il y a vraiment du sens à cet accrochage. Donc si on le respecte, c'est aussi en mémoire de ce donateur, puisque c'est ce qu'il nous a laissé, c'est le souvenir de sa famille et lui-même, cette trajectoire historique qui est assez incroyable.
C'était Secret professionnel le 214e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des palaces.
Réalisation Clotilde Pivin. Attachée d'émission Daphné Abgrin. Prise de son François Rivalan. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.